de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France, réalisée et produite par Radio Delta. Alors pour cette 135e édition, nous vous proposons des chroniques très variées, comme souvent, et qui illustrent à la fois l'ouverture d'esprit des francs-maçons, leur intérêt pour l'avenir du monde et pour le présent. Ici et maintenant, nous vous proposons Variations printanières. Pour débuter ce programme radiophonique, Sylvie Licazion propose, dans le cadre de la série sur les origines de la franc-maçonnerie, un portrait de James Anderson, franc-maçon énigmatique, comme elle le précise, qui était donc celui qui donna son nom aux constitutions. Écoutons Sylvie Licazion.
James Anderson, un franc-maçon énigmatique. Quel franc-maçon ne connaît pas le nom de James Anderson ? Il est resté célèbre dans la franc-maçonnerie pour un seul fait, la publication de ses premières constitutions en 1724 à Londres. Pourtant, jamais un franc-maçon n'est resté aussi énigmatique et aussi controversé par les historiens qu'Anderson. La première grande loge d'Angleterre est fondée le 24 juin 1717 par la fusion de quatre loges londoniennes. Non, des Aguliers, Anderson et leurs amis n'ont pas fondé la franc-maçonnerie, ils ont simplement créé la première obédience maçonnique. La franc-maçonnerie existait déjà depuis longtemps. Les principes fondamentaux de cette constitution sont inspirés par deux courants extrêmement forts en Angleterre à l'époque. Le premier est l'idéal des Lumières, qui n'est pas que français, mais a bien traversé l'Europe entière, l'Angleterre, l'Écosse, l'Allemagne, la Suède, la Prusse et même la Russie. Et le second principe est la révolution scientifique du XVIIe siècle, particulièrement prégnante en Angleterre avec la création en 1660 de la Royal Society et de ses membres éminents comme Newton, Darwin ou encore Christopher Wren. Cette première obédience prend le nom de Grande Loge d'Angleterre en 1738 et connaît une grande expansion à travers le monde. Elle naît peu de temps après l'avènement sur le trône de Grande-Bretagne, le 1er août 1714, de George Ier, premier roi de la maison du Hanovre et de la fin des premières rébellions jacobites catholiques. C'est sûrement par le biais d'aristocrates jacobites émigrés en France que la franc-maçonnerie est née à Paris dès 1725, rue des Boucheries, dans le quartier de Saint-Germain. Les Français, d'abord des aristocrates, puis de bons bourgeois, ne tarderont pas à suivre. 20 ans plus tard, il y aura plus de 20 loges dans la capitale et au moins autant en province. Mais parlons de André-Michel Ramsay, un jeune cadet écossais, qui a eu l'honneur de prononcer en 1736 dans une loge parisienne un discours resté très célèbre, d'esprit cosmopolite et libéral, et qui, maintes fois reproduit, est presque le programme intellectuel de la franc-maçonnerie française pendant tout le XVIIIe siècle, et non celui de la Grande Loge d'Angleterre. Voilà une première idée reçue. Mais qui est ce James Anderson ? Il est né et a grandi à Aberdeen, en Écosse. Son père, simple vitrier, était membre de la loge maçonnique d'Aberdeen qui pratiquait le rite du mot de maçon, d'origine calviniste. Le rite du mot de maçon est créé en 1637 en Écosse pour remplacer le rite des anciens devoirs opératifs du Moyen-Âge et faire place à la maçonnerie spéculative désacceptée. Il a la forme originelle de 3 degrés, apprenti, compagnon, maître, pratiqué aujourd'hui par la quasi-totalité des loges maçonniques dans le monde. C'est un retour aux sources philosophiques qui incite à une pratique œcuménique plus tolérante et plus conciliante dans une Europe longtemps déchirée par les guerres de religion. James Anderson est lui aussi devenu franc-maçon comme son père. Il s'installe à Londres en 1710 et devient pasteur de l'église presbytérienne d'Écosse. Il en profite pour initier ce rite du mot maçon, les gentilshommes qui en 1717, au titre de maçon accepté, allaient fédérer 4 loges de Londres sous le nom de la Grande Loge de Londres et de Westminster, dont il devient le grand surveillant. Personnage controversé, on ignore la date de sa réception en maçonnerie. Auteur de plusieurs compilations généalogiques, il fut mandaté par la Grande Loge en septembre 1721 pour écrire une histoire de la franc-maçonnerie. Il est aujourd'hui surtout connu par les constitutions pour lesquelles tous les historiens s'accordent à penser qu'elles furent une œuvre collective à laquelle Des Aguliers prit une part déterminante. D'ailleurs, le nom d'Anderson n'apparaît pas dans la page de garde, mais il est seulement mentionné en appendice. Ces constitutions furent éditées et réimprimées par Benjamin Franklin à Philadelphie en 1734, à une époque où l'Amérique était encore coloniale et bien avant que Franklin ne devienne l'homme politique que l'on connaît. Les constitutions furent ensuite traduites dans un bon nombre de langues, dont le français, en 1745. Et donc, que sait-on de ce James Anderson ? En fait, vraiment pas grand-chose. Il est mort en 1739 dans des circonstances inconnues. On sait aussi qu'il est mort très pauvre après avoir perdu beaucoup d'argent dans la South Sea Company, la Société des Mers du Sud, une compagnie spécialisée dans le commerce avec les colonies anglaises en Amérique et le négoce pas très glorieux des esclaves d'Afrique. Cette compagnie est emportée par le krach boursier de 1720. Anderson est par la suite polygraphe pour gagner sa vie. Un auteur non spécialiste qui écrit sur des sujets variés, comme ont pu l'être les constitutions maçonniques. Anderson n'en serait donc que le polygraphe, un simple secrétaire, mais pas vraiment un auteur. Voilà une deuxième vérité rétablie. De nos jours, les constitutions d'Anderson continuent de jouer un rôle important dans la franc-maçonnerie. Bien que leur influence puisse varier selon les différentes obédiences maçonniques et les traditions régionales. Elles sont souvent considérées comme un document historique précieux, témoignant des origines et de l'évolution de la franc-maçonnerie moderne, mais on peut maintenant penser qu'elles ne sont pas vraiment d'Anderson et appliquer la maxime « nullius in verba », qui veut dire « ne croire personne sur parole », la devise latine de la Royal Society. Et ainsi, la boucle est bouclée.
On a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna gonna make it with anyone anyhow.
Pour introduire la rubrique littérature et rock'n'roll, nous venons de vous diffuser Les Beatles et Revolution. Isabelle Chibat nous propose ce dimanche de découvrir le roman publié aux éditions Gallimard par Serge Gainsbourg, Evgeny Sokolov, une chronique qu'elle a intitulée « L'art et la pentomanie selon Gainsbourg », une chronique qui sera suivie par une musique de Velvet Underground, « Waiting for the Man » avec un petit clin d'œil à Randy Warhol.
Connaissez-vous vraiment Serge Gainsbourg ? On a tous en tête ses célèbres chansons ainsi que le duo légendaire qu'il a formé avec Jane Birkin. Mais saviez-vous que Gainsbourg avait publié son seul et unique roman en 1980 chez Gallimard et qui s'intitule Evgeny Sokolov ? Mais de quoi parle donc ce roman ? Il s'agit de l'histoire d'un peintre rendu célèbre grâce, tenez-vous bien, à ses flatulences. On reconnaît bien là l'irrévérence de Gainsbourg. Le roman commence ainsi. Je cite, « De ma vie, sur ce lit d'hôpital que survolent les mouches à merde, la mienne, m'arrivent des images parfois précises, souvent confuses, out of focus, disent les photographes, certaines surexposées, d'autres au contraire obscures, qui, mises bout à bout, donneraient un film à la fois grotesque et atroce, par cette singularité qu'il aurait de n'émettre par sa bande sonore parallèle sur le celluloïde à ses perforations longitudinales que des déflagrations de gaz intestinaux. » Alors, il s'agit d'un homme, Evgeny, qui est affligé d'une terrible maladie qui devient un véritable handicap, hein, celle de péter sans arrêt, et dont l'auteur nous relate la douloureuse existence ainsi que la maladie avec une précision quasiment chirurgicale. De son enfance misérable, marquée par une maladie qui porte le nom, je cite, de météorisme, donc vous relèverez la métaphore fleurie, à son passage éclair dans l'armée où le relâchement de ses sphincters est considéré comme un outrage à la nation, de son entrée aux Beaux-Arts à son incroyable succès de peintre et de sa fin de vie sur un lit d'hôpital, le ventre déformé par ses flatulences, Evgeny est le récit d'une vie dont les ballonnements intestinaux ont été le principe même et la quintessence. Parce que c'est grâce ou à cause de sa pétomanie Evgeny est devenu un peintre génial, à la cote, inestimable sur le marché de l'art. Chaque fois qu'il libère un vent, il crée une œuvre d'art. Il faut ici voir la critique de Gainsbourg hein, vis-à-vis de l'art moderne et de certains imposteurs qui en font partie. Alors, il faut savoir que la voie qu'a prise l'art moderne a débuté en 1917. Parce que c'est en 1917 que Marcel Duchamp a exposé au Salon de New York l'urinoir. Vous savez, c'est cet objet trivial. Et l'urinoir a été décrété par Marcel Duchamp comme étant une œuvre d'art sous le nom de ready-made. Un ready-made est un objet issu du quotidien qui se fait œuvre d'art. Mais le propos de Duchamp était le suivant. Dans un monde devenu barbare et complètement fou, parce que des générations entières se font massacrer actuellement sur les champs de bataille, eh bien, un simple urinoir peut donc devenir une œuvre d'art. Alors, maladie et création vont être inextricablement liées dans le livre, faisant du peintre le chef de file de, je cite, l'hyper-abstraction, ce mouvement artistique sismographique qui est soumis à la qualité explosive des flatulences de son auteur. Alors, le sujet est répugnant en apparence, et pourtant, la langue est belle, certes triviale dans son fond, mais très travaillée dans sa forme, très littéraire, construite avec un esthétisme complet. « Je n'ai pas laissé une seule ligne merdeuse », disait Gainsbourg à propos de cet ouvrage, et il a été éreinté par la critique littéraire de l'époque. Mais il a été bien accueilli par Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe, et je vous invite à ce titre à revoir cette interview. Alors l'ouvrage révèle pourtant beaucoup de son auteur. On pourrait même dire que Evgeny est le double littéraire de Gainsbourg. Parce qu'avec Gainsbourg, il y a toujours le sens de la provocation qui se double d'une part de douleur intime, liée déjà à son échec de se faire un nom dans le monde de la littérature, de la peinture, pardon, monde de la peinture qu'il considérait comme un art majeur, contrairement à la musique qu'il estimait comme un art mineur. On se souvient là encore du clash qu'il avait eu avec Guy Béard. Mais il y a aussi le problème lié au physique que Gainsbourg a véritablement vécu comme une souffrance et comme une forme de handicap, au même titre qu'Evgeny Sokolov, avec sa pétomanie. Le roman prend ainsi des élans absolument subtils et délicats, dans lesquels l'écrivain manie la plume avec une maîtrise et un savoir-faire absolument remarquables, ciselant patiemment sa prose en orfèvre. Vous aurez donc face à vous 86 petites pages audacieuses, élégantes, tantôt raffinées, tantôt impertinentes, dans lesquelles on retrouve tout ce qui faisait le charme et le charisme de l'auteur, ce mélange de chic et de choc, d'insolence et de timidité, d'irrévérence et de pudeur absolument désarmante qui définissait si bien Serge Gainsbourg. Evgeny Sokolov, à lire et à relire aux éditions Gallimard, avec finesse et décontraction, sur fond de musique bien choisie. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Thank you.
De la nature comme trait d'union est le premier opus de la nouvelle série Psychophilo de Michel Baron. Sa réflexion fait suite à l'exposition sur Déodore, Rousseau et Pierre Leroux, les premiers écologistes, exposition qui a lieu au musée du Petit Palais à Paris. Michel Baron.
Bonjour. Notre chronique d'aujourd'hui sera intitulée « De la nature comme trait d'union », qui portera sur la rencontre entre l'art, la philosophie politique, la nature et la franc-maçonnerie chez Théodore Rousseau et Pierre Leroux. J'ai envie de chanter, mais je ne le ferai pas, rassurez-vous, la chanson de Brassens qui était « Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux ». Mea culpa de citer Brassens, car cela pourrait faire songer à une facilité. Mais le thème de notre réflexion s'en rapproche. Le musée du Petit Palais organise une exposition jusqu'au 7 juillet sur le peintre Théodore Rousseau, 1812-1867, intitulé « La voix de la forêt ». Formidable incursion dans la nature, principalement la forêt de Fontainebleau, refuge d'autres peintres, Jean-François Millet notamment, qui se regrouperont sous le nom d'École de Barbizon, village où Théodore Rousseau terminera ses jours et où l'on peut toujours visiter sa maison-atelier qui est devenue une annexe du musée départemental de l'École de Barbizon. Le peintre ne se contentera pas de peindre. Très engagé dans la vie politique de son temps, il participera notamment à la défense de la nature, devenant ainsi l'un des premiers écolos avec Pierre Leroux, sur lequel nous allons revenir. Non seulement comme défenseur de ce qui faisait son champ d'inspiration, mais surtout animé par des convictions panthéistes, où l'homme n'est qu'une parcelle du tout que représente le cosmos et dans lequel il doit se reconnaître, non comme spectateur, mais comme partie prenante. Le précurseur de l'impressionnisme écrit, justement, « Si je parviens par l'assimilation de l'air avec ce qu'il sait faire vivre et de la lumière avec ce qu'elle fait éclore et mourir, à donner la vie génétique à ce monde de la végétation, alors vous y entendrez les arbres gémir sous la bise qui doit les dissoudre. Les oiseaux qui appellent leurs petits et crient. Rousseau affiche une conception organique de la nature, typique du panthéisme romantique. En immergeant le spectateur dans la nature, il aspire à montrer qu'elle est un tout et que l'homme fait corps avec ce tout, dans une harmonie retrouvée. Dans une période où l'industrialisation se développe de façon exponentielle, une réaction mondiale se fait jour à cette époque sur l'attaque dont la nature est l'objet. C'est par exemple la naissance du transcendantalisme en Amérique du Nord avec l'influence du philosophe et naturaliste Henri David Thoreau et de son célèbre ouvrage de vie dans la nature, Walden. Suzanne Darny de Vitry, commissaire de l'exposition, indique que Rousseau, dans la conviction de son panthéisme, fut très influencé par le critique Théophile Thoré, l'écrivaine Georges Sand et surtout le philosophe Pierre Leroux, avec qui il partage ses idées socialistes. Ce dernier personnage a tout pour nous intéresser, malgré qu'il est relégué dans l'ombre aujourd'hui. Pierre Leroux, 1797-1871, appartenant à la génération des jeunes républicains, passe pour l'inventeur du mot socialisme. C'est lui qui a inventé le mot socialisme. Issu d'un milieu très modeste, il renonce à entrer à l'école polytechnique et devient typographe et est très vite attiré par la politique et l'écriture. Il passera peu de temps chez les Carbonari, mais décide de son autonomie dans la recherche d'une idéologie rendant le monde meilleur. Le solidarisme sera au centre de ses préoccupations et il rejettera deux doctrines qu'il juge inhumaines, le libéralisme et le communisme. Bien que Karl Marx le juge génial, du moins en 1843, après les choses vont se gâter. Bon dimanche à vous. Nous nous retrouverons pour la suite de cette réflexion un prochain dimanche.
Pierre de Touche.
Pour illustrer la rubrique Le Monde qui vient, nous venons de diffuser le petit train, titre d'Erita Mitsuko, interprété par Catherine Ringer à la Philharmonie de Paris. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien parce qu'il fait référence à l'Holocauste, à la Shoah. Et l'intellectuel Gilles Kepel vient de publier un ouvrage intitulé Holocauste, au pluriel, un ouvrage dont le sous-titre est Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. Pierre Yana nous livre sa réflexion.
Le monde qui vient, Gilles Kepel, Holocauste chez Plon. Assez souvent ici, nous avons recommandé la lecture des ouvrages de Gilles Kepel, islamologue de renom, l'un des meilleurs analystes du Proche-Orient, car c'est bien la situation au Proche-Orient qui nous préoccupe en ce moment. En particulier, le conflit commencé le 7 octobre 2023 entre le Hamas et Israël. Dans un ouvrage paru en mars 2024, Holocauste, Gilles Kepel entend faire le point sur la situation à Gaza. Tel est le sous-titre de l'ouvrage, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. Il faudra bien éclairer tous les termes de ce titre pour en comprendre la portée. Mais le titre lui-même est étrange, Holocauste. Chacun, chacune se souvient que ce terme désignait, jadis, le massacre des Juifs européens et d'Asie pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis et leurs séides, avant que le terme hébraïque de Shoah, la catastrophe, ne vienne recouvrir Holocauste. Mais tous, nous comprenons l'usage symétrique d'Holocauste pour désigner ensemble le pogrom mené par le Hamas le 7 octobre 23 contre la population israélienne du Sud, d'une part, le massacre épouvantable des habitants de Gaza, d'autre part. Le Hamas renouait ainsi avec les pires traditions antisémites européennes et Israël, par une vengeance aveugle, rendait le pire aux Gazaouis. Tel est donc le sens de cette symétrie éclairée par Kepel. À l'horreur répond l'horreur. L'ouvrage est ainsi construit en quatre parties que nous allons analyser. La razzia, les contradictions d'Israël, la géopolitique d'un massacre et enfin Haro sur l'Occident. Tout d'abord, la razzia du 7 octobre. Le Hamas désigne ainsi l'opération du 7 octobre. L'assaut soudain, une razzia, renvoie à ce qui, dans l'univers terroriste, s'est nommé la razzia bénie, à savoir le 11 septembre 2001, l'attaque par Ben Laden des tours du World Trade Center à New York. Le 7 octobre, comme le 11 septembre, ont eu pour vocation de laver l'humiliation de la guerre des six jours de 67, la défaite arabe devant la guerre éclair victorieuse d'Israël. Avec un résultat supplémentaire, l'agressé Israël est devenu l'agresseur. Ce qui, en Israël, avait provoqué le premier pogrom post-Deuxième Guerre mondiale, avec 1140 victimes, 250 otages, hommes, femmes, enfants, vieillards, viols, massacres, s'est transformé en son contraire, avec des milliers de victimes gazaouis, des enfants palestiniens. Ici, on retrouve, dit Kepel, le sens du terme holocauste, c'est-à-dire sacrifice, anéantissement, introduisant un nouveau clivage nord-sud, variante de la période est-ouest, finie en 89. On y retrouve aussi une référence religieuse marquant ce que le Hamas désigne comme un viol des lieux saints musulmans par l'entité sioniste. Le Hezbollah iranien désigne enfin le Hamas comme seul acteur. Ni l'Iran, ni le Hezbollah ne peuvent aujourd'hui se permettre un affrontement majeur avec Israël et les USA par pure faiblesse. C'est-à-dire que Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, offre à l'Iran une ouverture dans le monde sunnite aux chiites iraniens. C'est bien un nouveau front qui s'ouvre, soutenu un temps par le Qatar, allié pendant un temps à Israël pour soutenir le Hamas et affaiblir l'ennemi de l'autorité palestinienne. Deuxièmement, les contradictions d'Israël. Une légende avait couru dès le 8 octobre. Les services secrets d'Israël, pourtant réputés si efficaces, auraient été pris en défaut. En vérité, il n'en est rien. Il disposait des éléments clairs de la planification du 7 octobre. Pourtant, c'est le Premier ministre Netanyahou qui avait fait un choix politique différent pour appuyer ses partisans, les colons de Cisjordanie et les sionistes religieux. Il avait ainsi clairement dégagé le front de Gaza. Ça lui sera reproché. On connaît la suite. Ces colons, qui composent la majorité gouvernementale de Netanyahou, veulent faire d'Israël un État théocratique, sans Palestiniens du tout. Ainsi, ces derniers temps, les objectifs de Bibi ont été doubles. D'une part, ces derniers mois, soutenir le Hamas contre l'autorité palestinienne, seule, elle, à même de créer un État palestinien. Netanyahou a favorisé, par exemple, l'arrivée de l'argent du Qatar à Gaza avec la protection du Shin Bet, qui accueillait cet argent à l'aéroport de Tel Aviv pour l'amener jusqu'à Gaza. D'autre part, après le 7 octobre, devant l'évidence, détruire le Hamas à Gaza, retrouver Sinwar et les siens. Enfin, éviter la prison pour lui-même, Netanyahou. Tout cela dans un contexte où les partis religieux israéliens, turcs, libanais, ont un fond démographique et politique considérable et leur poids est énorme. Et ce, dans un contexte d'union nationale très critique vis-à-vis de Bibi en Israël. Troisièmement, géopolitique d'un massacre. Troisième terme de l'analyse de Kepel, la géopolitique. Il y a d'un côté un camp pro-palestinien dans lequel on trouve la Ligue arabe, la Turquie et le Hamas. Cette entente frérot-chiite, qui s'appuie sur les sunnites du Hamas, s'oppose au pacte d'Abraham de Trump, appuyé essentiellement par l'Arabie saoudite, qui, elle, n'a pas encore signé les accords d'Abraham. On retrouve l'opposition essentielle Iran-Arabie saoudite. On comprend mieux le projet saoudien est de déplacer la capitale arabique vers l'ouest, vers la mer Rouge, pour y créer Neom. C'est Néo, Nouveau et M qui signifie l'avenir en arabe, la nouvelle capitale, un camp pro-occidental pharaonique. On comprend le rôle des outils yéménites dans le conflit qui font de la mer Rouge un enjeu redoutable. L'enjeu est bien celui de la modernisation de l'Arabie post-pétrole, d'où l'alliance saoudienne avec Israël contre l'Iran et le Hamas. Un dernier mot. Moscou et Pékin s'inscrivant dans la composition d'un nouveau tiers-monde, le sud, contre le nord occidental. Quatrièmement, arrow sur l'Occident. L'ensemble de l'analyse de Kepel se révèle dans ce dernier temps. Tout d'abord, le sud, c'est l'Afrique du Sud, membre des BRICS, qui porte plainte contre Israël à la Cour internationale de justice de La Haye, sans obtenir la condamnation de l'État juif pour génocide. Il s'agit clairement d'une offensive du Sud, nouveau paradigme, contre l'Occident, le Nord, en utilisant la terminologie du génocide. La guerre à Gaza devient très clairement une offensive contre le Nord, c'est-à-dire l'Occident. Deux vainqueurs dans ce conflit, premièrement l'Iran, leader de l'axe de la résistance qui entraîne pour partie avec lui le monde arabo-musulman, alors qu'il n'est pas un pays arabe. L'Iran est en synergie avec Pékin et la Russie. De plus, la Russie opère ici un rapprochement avec l'Iran dans le contexte de la guerre en Ukraine. Deuxième vainqueur, la superpuissance saoudienne, qui, pour les projets grandioses, Neom, se rapproche d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Il est important ici que le Hamas pro-iranien ne soit pas maître à Gaza pour l'Arabie saoudite. Ce qui convient parfaitement à Israël, qui cherche un nouveau leader à Gaza, Barghouti par exemple, plutôt que le Hamas. Ainsi, l'Arabie saoudite joue un rôle clé. Dans ce conflit suspendu demeurent plusieurs inconnus. Tout d'abord, les prochaines élections israéliennes qui pourraient éloigner Netanyahou en le rapprochant de la case-prison. Deuxièmement, les prochaines élections américaines, où la communauté juive, d'une part, la communauté musulmane inscrite dans les swing states, comme le Michigan, d'autre part, joue un rôle essentiel. On reconnaîtra la pertinence des analyses à chaud de Kepel et l'émergence d'un nouveau conflit nord-sud qui partage le monde dans une opposition régionale, mais bien entendu au-delà, mondiale, entre Israël et le Hamas. Bon dimanche.
Pourquoi ne pas y croire? Pourquoi ne pas se le dire? Faire avancer l'histoire et ensemble l'écrire. Je dirai des poèmes, chanterai des chansons, il peindrait des je t'aime sur toutes les maisons. La amiche non più mache, ma con mi sta vezman yafe yoter, beomets leshanot ulekabel ulehatril mehatchala. La paix d'une porte qu'on ouvre pour se connaître, aimer l'histoire de l'autre, c'est comprendre la sienne. La tzat al toch halayla, l'imtso shedolek adayim bachashecha le'olam ava bechina.
بالإرادة والعزيمة الحق والأحلام بقلوب صافية نلقى الأمان. كل شي هون كل شي يكون يا رب الفتح وباب السلام.
Les mains se sont serrées, les promesses échangées, le dire et le vouloir, il n'est jamais trop tard.
עכשיו הזמן לזרוע בדמעות ולהצית ניצוץ ולקוות, באומץ לשנות ולקוות אהבה בחינם.
מליד וליד יחוונו שמי אנשוף וגדמנו נבני ומוסתקבלנו
La paix est une porte qu'on ouvre pour se connaître, aimer l'histoire de l'autre, c'est comprendre la sienne.
L'amin j'en odio m'acher, ma com nistar v'zman yafé yoter, באומץ לשנות ולקבל ולהתחיל מההתחלה.
Se dire en quelques lignes qu'au fond on se ressemble, juste envoyer un signe, le vivre ensemble.
Et un titre particulièrement adapté à la suite de cette chronique sur le monde qui vient, Pourquoi ne pas y croire, une chanson interprétée par Patrick Bruel, Idan Reichel et Younes El Ghezouli.
Pourquoi ne pas y croire?
Dans le cadre de la chronique internationale, William Bress nous emmène ce matin au Nigeria, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est en fait le plus peuplé d'Afrique et le 16e pays du monde par son nombre d'habitants. Pour illustrer cette chronique, Boubacar Traoré et Kélé, un chanteur d'Afrique de l'Ouest.
Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. On y recense plus de 219 millions d'habitants en 2022. Sa population devrait atteindre 410 millions d'habitants en 2050. Avec plus de 250 groupes ethniques, le pays représente une très grande diversité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. Le Nigeria exerce une influence importante en Afrique de l'Ouest en raison de son poids démographique et économique. Il est membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le pays ambitionne de devenir l'une des 20 premières économies mondiales d'ici à 2050. Les grandes villes du Nigeria comprennent Lagos, plus de 21 millions d'habitants, la plus grande des villes du pays, son plus grand port et son principal centre financier. Abuja, 3 millions d'habitants, la capitale fédérale. Kano, 4 millions d'habitants, un important centre commercial et industriel. Et Ibadan, 4 millions d'habitants, l'une des plus grandes villes d'Afrique. Ces villes sont des moteurs de croissance économique, mais sont également confrontées à des défis tels que la surpopulation, l'urbanisation rapide et des infrastructures insuffisantes. Lagos, la plus grande des villes du Nigeria, est un carrefour dynamique de culture, d'histoire, de vie urbaine trépidante. Cette métropole tentaculaire est le moteur économique et culturel du pays le plus puissant. Elle offre une richesse de sites touristiques, d'activités et de saveurs uniques. Lagos a une histoire riche qui remonte à plusieurs siècles. Fondée par les Portugais au XVe siècle, la ville a été un important centre commercial pour le commerce des esclaves et des produits agricoles. Aujourd'hui, elle est le reflet de son passé colonial à travers ses bâtiments historiques tels que le quartier de Broad Street sur l'île de Lagos, où se trouvent des vestiges architecturaux imposants datant de l'époque coloniale. Le musée national du Nigeria, situé dans la ville, abrite une collection impressionnante d'artefacts historiques et culturels qui témoignent de l'évolution de la région à travers les âges. Cette métropole est un melting pot vibrant de diverses cultures et traditions. En se promenant dans les rues animées de la ville, on peut entendre une multitude de langues et dialectes différents, goûter à une variété étonnante de plats locaux et découvrir une scène artistique dynamique. La ville abrite également un grand nombre de festivals culturels tout au long de l'année, mettant en avant la musique, la danse, l'art et la cuisine nigériane. La vie urbaine est ici à la fois exaltante et exigeante. La circulation dense et chaotique contraste avec les gratte-ciel modernes et les quartiers résidentiels luxueux. Les marchés animés regorgent d'une variété étonnante de produits locaux frais, tandis que les boutiques haut de gamme et les galeries d'art contemporain offrent une expérience de shopping rare. Lagos est également réputé pour ses superbes plages. Des étendues de sable doré bordent la côte atlantique, offrant aux habitants et aux visiteurs l'occasion de se détendre au soleil, de nager dans des eaux chaudes et cristallines ou encore de pratiquer des sports nautiques. La plage de Légusi est particulièrement populaire pour ses bars en bordure de mer et ses couchers de soleil spectaculaires.
Nous abandonnons là le Nigeria pour ce dimanche et nous retrouverons lors de la prochaine émission de Chronique. Et pour illustrer cette rubrique, eh bien, Boubacar Traoré et Kélé. Mixité et laïcité, quel sens ces mots ont-ils à côté de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité? Marc Burla s'interroge ce matin sur la mixité et la laïcité et comment faire vivre ces valeurs et ces principes dans notre République lorsqu'ils sont attaqués de toutes parts. À cette occasion, il rappelle combien ces notions sont importantes aux yeux des francs-maçons. Voici la République vue par Marc Burla.
La Grande Logiste de France a décliné son idéal en six mots principaux. Trois sont le socle de notre République, la garantie de notre démocratie, liberté, égalité, fraternité. Les trois autres fondent notre parcours de maçon au sein de la Grande Logiste de France, mixité, solidarité, laïcité. Après une réelle installation dans la société du XXe siècle, la mixité prend l'eau. La solidarité a du mal à résister à ce qu'il est convenu d'appeler la crise, et la laïcité est attaquée dans son credo prônant le respect et la liberté de conscience. Lors du 30e anniversaire de notre première loge, Solon, à Paris, le grand maître d'alors, François Padovani, définissait ainsi la mixité. Nous concevons, au sein de la Grande Loge de France, la mixité non pas comme une juxtaposition de sœurs et de frères, mais bien par une complémentarité librement consentie, permettant à chacun d'exprimer les différentes composantes de l'humanité et de l'être lui-même. Il nous semble essentiel à la Grande Loge Mixte de France de toujours rappeler au sein de la société et partout dans le monde ce principe essentiel de l'humanité. Femmes et hommes doivent pouvoir vivre ensemble, respectant leurs différences sans discrimination aucune, avec les mêmes droits fondamentaux et inaliénables. La mixité, liée à la laïcité, est un pilier fondamental qui fait que sur Terre, toutes les femmes, tous les hommes doivent naître et demeurer libres et égaux en droit. Pourquoi ce rapport entre mixité et laïcité ? Dos à dos, islam et catholicisme ne montrent pas une conception de la mixité très engageante. Les premiers, citant une version du verset 34, sourate 4, « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. L'homme a la tutelle sur les femmes et est un degré au-dessus d'elles, ou encore ailleurs. » Pour se rendre compte de la portée des inconvénients qu'engendre la mixité, il suffit de contempler l'état des sociétés éprouvées par cette calamité. La personne objective et juste constatera que la situation est lamentable et se désolera que la femme ait pu délaisser sa maison en provoquant ainsi l'éclatement de la famille. Ce fléau a pour vocation de désintégrer la société et de saper ses fondations. Que dire de plus si ce n'est que la mixité est en danger ? Une étude récente montre que la femme reste associée aux termes de service, humilité, discrétion, soumission, modestie, lorsque l'homme reste attaché aux principes de pouvoir, de décision, de supériorité, de parole et d'enseignement, occupant naturellement l'espace public. Faut-il rappeler Vatican II ? Faut-il rappeler la jeune fille brésilienne de 9 ans excommuniée pour avoir été violée, lorsque l'on sait l'importance de l'appartenance à la communauté catholique dans ce pays ? Faut-il rappeler la position de l'Église catholique, apostolique et romaine face à la contraception et à l'avortement ? Que dire de plus si ce n'est que la mixité est en danger ? Bien sûr, depuis 1905, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Et nous sommes attachés à l'État public, à la parité. Parité, que ce mot est barbare, comme un justificatif, comme un blanc-seing. Le nombre effacerait la faute. C'est un peu comme le bouquet offert le 8 mars pour faire pardonner l'oubli du 14 février. Mais les 23% de disparité de salaire se rappellent à nous. À la Grande Loge Mixte de France, nous voulons acter tous les jours cette exigence de mixité comme une reconnaissance ordinaire et normale, comme une expérience collective, individuelle, irremplaçable. Égalité, équité, en fonction, grade et qualité. Comme ce qui devrait être dans le monde profane. Et nous devons rester vigilants afin de défendre toujours notre idéal. Nous devons œuvrer pour que la mixité dépasse nos frontières. Nelson Mandela disait en 1994 « La liberté ne sera pas totale tant que les femmes n'auront pas été émancipées de toutes les formes d'oppression. » La Grande Loge Mixte de France lie le principe de laïcité avec celui d'égalité et de mixité dans une réflexion constante et active. La laïcité est l'indépendance, la condition essentielle de notre liberté. Elle est l'égalité dans les convictions, le refus de dominance. Elle offre à chacun le droit de contempler sa lumière sans l'imposer au monde. Pourtant, la laïcité refait débat et avec elle la mixité et le droit des filles. Bernard Stasi écrivait dans le guide républicain donné aux écoles « La laïcité, c'est aussi et surtout la fraternité parce qu'elle reconnaît et respecte les différences. Elle a aussi pour mission, et c'est la plus noble de toutes, de créer les conditions permettant à tous de vivre ensemble dans le respect réciproque et dans l'attachement commun aux valeurs qui doivent nous unir. Empreinte de liberté, d'égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte républicain. » La laïcité est donc bien ce ciment fraternel de respect et de tolérance qui doit permettre à chacun de vivre son chemin, et principalement femmes et hommes, ensemble. Francs-maçons, jamais nous ne devons laisser l'intégrisme et l'intolérance, terreau du sexisme, quel qu'il soit, poser le pied sur notre route. Toujours, nous devons défendre le vivre ensemble dans le respect, le dialogue et la tolérance. Sachons porter véritablement cette parole, au mépris de quoi il ne sert à rien de se déclarer maçon. Au mépris de quoi nous n'aurions pas compris ce devoir sacré de remplacer l'erreur par la vérité, l'ignorance par la connaissance, la haine par l'amour. Mixité, laïcité. Francs-maçons de la Grande Loge Mixte de France, nous avançons ainsi, en conscience, dans nos loges, ensemble, sœurs et frères, femmes et hommes. Nous savons que chaque jour, il faut garder les yeux ouverts. Comme tout maçon de la maçonnerie universelle, nous avons conscience de la responsabilité personnelle et discrète, mais réelle et totale, qui est la nôtre. Mixité, laïcité, Ces mots sont les gardiens actifs du triptyque républicain. Tous les instants sont à jamais marqués par nos actions.
Pierre de Touche. Alors cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Toutes les émissions précédentes sont disponibles en podcast sur le site de Radio Delta à la page Pierre de Touche. Merci au chroniqueur et à Gilles Solière, notre réalisateur et producteur.
Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des...
Nous nous quittons avec Claude François. Il y a le printemps qui chante.
Si tu as quelques chagrins,
bon dimanche.
Pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, y'a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin. Va renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, y'a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux.